La mobilité peut-elle résoudre les inégalités? Inviter la sociologue Marie-Hélène Baquet qui a refait le trajet en RER de l'écrivain François Maspero 30 ans après dans les quartiers populaires de la périphérie parisienne. L'occasion de comparer à partir de 1955 30 ans de politique de la ville. Quels effets? Mais d'abord, le nouvel Ottavio de Mozart. C'est lui, 35 ans, un physique de rugbyman et un timbre lumineux. Élu révélation artistique lyrique aux Victoires de la musique en 2014, le ténor Stanislas de Barbera qui est actuellement sur la scène de l'Opéra Garnier aux côtés du baryton québécois Étienne Dupuis pour un Don Giovanni de Mozart sombre et trépidant, repensé par Ivo Vanov et dirigé dans l'orchestre par Philippe Jordan. À voir, à écouter jusqu'au 13 juillet et tout de suite avec notre invité sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Un casting international pour un opéra en deux actes autour de la figure du séducteur amoral Don Giovanni. Bonjour à vous, Stanislas de Barbera.
Bonjour.
Où vous êtes Don Ottavio, c'est-à-dire le pendant, c'est-à-dire la face claire de cette histoire d'amour et de séduction. C'est un rôle d'abord qui vous colle à la peau. Vous l'avez déjà incarné notamment cette année en janvier au Metropolitan à New York, puis à l'Opéra de Bavière. Vous l'avez chanté ce rôle pour la première fois, je crois, à Stockholm. Vous l'avez aussi chanté à San Francisco, où vous avez fait vos débuts aux États-Unis. Comment on se réinvente à chaque fois, avec de nouveaux partenaires, avec de nouveaux metteurs en scène, avec une nouvelle direction musicale? Est-ce que vous allez creuser, chercher d'autres facettes du personnage pour être sûr de ne pas vous répéter?
Oui, bien sûr, c'est ça qui est intéressant. Dans notre métier, c'est de faire plusieurs fois les rôles, je crois, parce que et il faut arriver surtout prêt à en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire ne pas trop se servir des éléments passés avec un metteur en scène ou un chef d'orchestre et d'arriver neutre et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'ils vont me proposer? Moi, j'ai déjà quand même une petite idée de ce que je peux en faire, de ce que j'ai envie d'en faire, mais qu'est-ce qu'un metteur en scène peut me proposer d'autre que je n'avais pas encore lu, pas encore senti? Et voilà, c'est à chaque fois... bon, là, j'en fais trois de suite, donc c'est vrai que c'est compliqué.
Mais c'est vraiment l'année Don Giovanni.
Ouais, c'est l'année Don Giovanni. Après, ouais, je vais me calmer un peu, mais mais voilà, ce sont les hasards du calendrier, c'est très bien, et puis ce sont des très grandes maisons, donc c'est de superbes opportunités, et voilà, le travail d'Ivo, c'est voilà, de me prendre comme je suis, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, je connaissais son travail théâtral, bien sûr, mais... lui aussi est un petit peu nouveau dans le monde de l'opéra et c'était très intéressant parce que voilà, il prend les choses physiques comme tout metteur en scène d'opéra, il voit comment on est sur scène, comment on réagit, comment on se comporte quand on n'a rien à faire, et c'est ça qui est intéressant, et donc ça nourrit mon rôle, et voilà, là je pars avec de nouveaux outils pour d'autres Don Ottavio, et c'est ça qui est très beau dans mon métier.
Mais alors, quand vous dites, par exemple, Ivo Vanov me prend, il vous prend aussi parce qu'il sait que vous avez déjà brillé dans ce rôle-là ailleurs, mais quand même avec l'envie de vous amener dans une autre direction, vers un autre état du personnage.
Alors, je sais pas dans quelle mesure, en fait, aujourd'hui, on est là parce qu'un metteur en scène nous a choisi, ou parce qu'un directeur d'opéra ou un directeur de casting nous a choisi, ou parce que, comme je l'ai fait plusieurs fois, on se dit, bon, ben, il a ça dans les cordes, donc voilà, c'est plus facile. Je crois que c'est vraiment une rencontre un peu inattendue, en tout cas avec Ivo, on ne se connaissait pas. Et c'est ça qui est formidable, parce que nous, les chanteurs d'opéra, on a des automatismes scéniques, etc. Et donc un metteur en scène qui vient surtout du théâtre est là pour gommer ces choses-là, essayer de nous faire trouver autre chose. Et moi, j'adore aller travailler dans ce sens-là parce que voilà, je suis allé voir Les Damnés à la Comédie Française, mis en scène par Ivo, et quand je vois ces acteurs incroyables, ce spectacle qui m'a, moi, ça m'a choqué, mais dans le bon sens du terme, et je me dis, mais tout ce qu'on a à trouver, nous, chanteurs d'opéra, en tant qu'acteurs, en tant que personnages de théâtre, on est loin du compte, parce que à cause du chant, ou grâce au chant parfois, on peut pas tout se permettre non plus. Parce que la posture physique impose quelque chose pour le chant. Donc, mais en même temps, on a des choses profondes à trouver. Et avec ce genre de metteur en scène, on va un peu plus loin que d'habitude. Et moi, ça me fait du bien. Parce que ça me fait oublier le chant, en fait.
Il est dans la mesure, Ivo Vanov, sur cette théâtralité qu'il demande à ses chanteurs.
Tout est assez chirurgical, en fait. Je trouve, hein, et c'est ce que j'ai vu aussi dans ses œuvres théâtrales, c'est que en même temps, comme c'est très précis, c'est très efficace. Et il n'y a pas de geste en trop. Et ça fait du bien parce qu'on trouve d'autres sensations aussi. Nous, en tant que chanteurs, on trouve des ressources qu'on n'imaginait pas. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien.
On peut chanter allongé, debout, assis.
Ouais, je crois que c'est possible dans la mesure où c'est senti, en fait. Parce qu'il y a des choses que l'on a élaborées et qu'on a faites en répétition en disant, oula, est-ce que ça, en contexte de spectacle, est-ce que je peux chanter la tête en l'air en étant accouché sur le dos, sans voir le chef, sans entendre l'orchestre, est-ce que c'est raisonnable? Et en fait, si c'est senti et que tout le monde sent cette énergie, je crois que c'est faisable parce que tout le monde est à l'écoute finalement de ce qui se passe. Et c'est ça la magie du spectacle vivant à ce niveau-là, c'est que s'il y a un message sentimental qui passe, c'est plus facile.
On vous écoute un extrait de l'acte 1 de ce Don Giovanni qui se joue actuellement à l'Opéra Garnier. L'air d'Alla sua pace, extrait de l'acte 1 de Don Giovanni de Mozart, que moi j'ai vu hier. Et là, à ce moment-là, quand vous chantez seul sur ce solo, on pourrait presque dire sur scène, c'était vraiment une levée d'émotion. Qu'est-ce qui se dégage de ces mots? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là?
En fait, c'est un beau moment pour Don Ottavio parce que c'est un moment de où enfin il est seul pour exprimer ses sentiments. Parce que toujours il est accompagné de Donana, toujours il y a un regard des autres intervenants dans Don Giovanni. Et c'est un personnage qui a envie de dire tout le temps ses émotions à Donana, mais qui ne le fait pas de par son rang social, son éducation, etc. Et c'est un moment où il est seul et enfin il se livre. Et il peut regarder dans le vide et penser à ses émotions, à ses sentiments. C'est uniquement ça en fait. C'est uniquement de dire qu'il est profondément amoureux de quelqu'un, qu'il a envie de lui dire et qu'il ne peut pas le faire quand il le veut, et que ça prend du temps, et que même à la fin de l'opéra, quand les choses devraient se terminer de bien, elle lui demande encore d'attendre parce qu'elle doit faire son deuil, et il attendra. Enfin, je pense qu'il attend parce qu'il est profondément amoureux de cette femme et que un an de plus, finalement, c'est pas grand chose. Et voilà, c'est un moment de liberté, de sentiment absolu, quoi.
Et nous, on trouve qu'elle exagère un peu, Donana.
Oui, elle exagère, évidemment, parce qu'il est prêt à venger la mort de son père, il est prêt à tout pour elle, mais faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque où les histoires amoureuses se passaient pas forcément à la même vitesse qu'aujourd'hui.
Ça se passerait pas de la même manière pour vous aujourd'hui. Pourtant, Don Giovanni et Don Ottavio sont vraiment deux figures en lutte dans cet opéra, deux conceptions de l'amour et des relations hommes-femmes qui, bien sûr, résonnent assez particulièrement aujourd'hui dans le contexte actuel. Don Ottavio, c'est l'antithèse de Don Giovanni. Il est délicat, il est patient, il est amoureux. Il le dit effectivement dans cet air. Ma paix dépend de la sienne. Si elle est heureuse, je me sens revivre. Ce qui lui cause souci me donne la mort. Si elle soupire, je soupire moi aussi. Sa colère, ses larmes sont miennes et je ne saurais être heureux si elle ne l'est pas. Tandis que Don Giovanni, lui, il est à l'opposé, c'est un séducteur brusque, manipulateur. Alors quel type d'homme préfère les femmes? Je propose juste d'écouter les mots de la chercheuse Giulia Sissa, auteure de Sexe et sensualité, la culture érotique des anciens.
Il y a Don Ottavio, il y a Don Giovanni. Don Ottavio, c'est l'amoureux dévoué, celui qui ferait tout pour vous, qui s'identifie entièrement avec votre plaisir et votre douleur. Et pourtant, si vous demandez à une femme, franchement, est-ce que vous aimez passionnément Don Ottavio, est-ce que vous méprisez aussi passionnément Don Giovanni? Je pense que vous auriez des réponses assez surprenantes. Parce que peut-être une femme pourrait vous dire, évidemment, Don Ottavio comme mari, mais Don Giovanni comme amant. Peut-être ce serait ça la synthèse supérieure.
Vous, dans la vie, Stanislas de Barberac, vous essayez d'être la synthèse des deux?
Je crois qu'il faut, il faut être un peu des deux. Il faut être éperdument amoureux, parce que c'est l'essentiel quand on trouve la bonne personne. Et en même temps, cette part de fougue, de noirceur, etc., donne aussi un caractère sensuel et charnel à un homme. Et je crois que Don Giovanni a ça aussi, dans cette ce qu'on pourrait croire une espèce de faiblesse à regarder toutes les femmes, etc. C'est aussi, il y a une forme de tendresse là-dedans, c'est-à-dire qu'il sait pas ce qu'il veut. Et je trouve ça assez beau, parce que il se pose des questions, en fait, il est fragile. Et je pense que c'est un beau trait de caractère aussi, cette fragilité chez un homme.
Don Ottavio, l'incarnation d'un idéal juste, oui. Dit-on. Quand vous prenez ce rôle pour la première fois, on le disait, à l'Opéra de San Francisco, c'est aussi aux côtés d'un chef, Marc Minkowski. C'est lui qui vous ouvre les portes de cet opéra et donc qui vous ouvre les portes de ce rôle. Comment il vous en parle?
Tout a commencé à Drottningholm, effectivement, pour ce festival d'été, avec ce rôle, et dans une version de Prague un peu raccourcie pour Don Ottavio. Donc c'est d'autant plus difficile à défendre parce qu'il n'y a pas d'Alois Sapace. Donc il n'y a qu'une facette du rôle qui est démontrée avec Il mio tesoro, qui est un air un peu plus héroïque, on va dire, un peu plus vengeur, un peu plus facile, un peu plus démonstratif. C'est difficile pour un chanteur de chanter d'Alois Sapace, parce que même au niveau des émotions, c'est compliqué à ce moment-là du théâtre dans l'ouvrage de déjà tomber là-dedans. Donc l'évolution du personnage est plus compliquée à défendre. Mais en tout cas, Marc, c'est vrai, je lui suis extrêmement reconnaissant de m'avoir ouvert notamment les portes de ce rôle, mais de pas mal de théâtre dans ma jeune carrière. Et on a une relation très amicale et très sincère aujourd'hui sur justement la discussion avec des prises de rôle, maintenant qu'il est directeur de l'Opéra de Bordeaux, qui est aussi la ville dans laquelle j'habite. Donc on discute beaucoup de ces prises de rôle, et c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il pensait que ce rôle m'accompagnerait longtemps et beaucoup, et s'est pas trompé.
Est-ce que le dialogue s'est fait de la même manière avec Philippe Jordan? Je vous propose d'écouter ces mots. À propos, lui, du passage de relais entre chefs, mais aussi entre la direction d'orchestre et les chanteurs, Philippe Jordan, qui dirige la musique à l'Opéra de Paris et actuellement se donne Giovanni à Garnier. On l'écoute.
La bonne chose pour notre génération, on est, disons, encore jeune, mais plus trop jeune. C'est-à-dire, on a une certaine expérience et on a encore l'énergie, ce qui est bien. Et l'avantage de cette génération, c'est qu'on s'accepte et qu'on s'échange. Vous voyez, il y avait une période où les grands chefs se parlaient pas ou s'évitaient, ou voilà, ça n'existe plus. Voilà, je m'échange beaucoup avec tout le monde. Ouais, quand on se voit, si je vois Paavo Järvi ou Vladimir Jurovski, Daniel Harding ou Robin Ticciati, ou tout le monde, on se voit, on dîne ensemble, on parle. Quelle est ton expérience? Comment tu as fait là-bas? Ah, toi, tu connais ce problème-là? Ah, ouais, tu as vu ça? Comment tu as abordé ça? C'est quelque chose de très très bien, on est beaucoup plus ouvert, on est moins sur se protéger, tout ça, c'est moi je fais mon truc. Non, c'est beaucoup plus vivant et ça fait vraiment du bien, parce que on sait qu'on est dans le même bateau, on a les mêmes défis, on sait les mêmes belles choses à faire, et c'est bien, et c'est une génération très ouverte.
Et c'est comment d'être dans le même bateau que Philippe Jordan, Stanislas de Barberac?
Bah, c'est une grande chance, parce que Philippe est quand même un grand chef d'orchestre. On se connaît depuis longtemps, parce que j'ai évolué moi à l'Opéra de Paris depuis mes études. Il était déjà nommé, etc. Donc on s'est suivis, on a travaillé plusieurs fois ensemble à l'Opéra de Paris. Nous avons aussi des projets ensemble pour le futur. Et voilà, c'est quelqu'un qui aime les jeunes chanteurs, qui aime faire confiance aux jeunes chanteurs. Il y a un travail très précis musicalement, de discussion, comme il le disait dans l'interview, où on propose, où on peut dire à un chef comme Philippe Jordan, là je suis pas à l'aise, il faut que tu me trouves quelque chose d'autre, ou là c'est très bien, on garde les nuances. Voilà, il y a une vraie discussion. C'est vrai que il y a une génération de chefs avec qui ça arrive aujourd'hui, et c'est très bien, parce que moi, quand j'ai commencé mes études de chant, il y avait une autre génération de chefs qui était encore là, où
c'était encore la figure du maître avec quelque chose de très vertical,
très vertical, où on n'ose pas trop, et c'est un peu frustrant. Et ça ne met pas dans les meilleures conditions pour rentrer sur scène. Donc avec Philippe, c'est très facile, c'est très simple.
On parlait de la direction d'acteur tout à l'heure, d'Ivo Vanoff. Et c'est vrai que vous avez déjà collaboré avec des grands metteurs en scène, Robert Carsen, je crois, pour La Flûte Enchantée, Tannhauser, de Le Dialogue des Carmélites, Olivier Py, pour Alceste, Hereux, pour Le Dialogue des Carmélites, Varlikovski, pour son Iphigénie en Tauride, des personnalités très marquées, très différentes, qui appellent aussi tout assez passionné à aller chercher au fond de soi ce qui peut être la personnalité. C'est avec des hommes comme ça, ou hommes ou femmes, qu'on grandit aussi.
Oui, bien sûr. Parce que toutes les personnes que vous avez citées et d'autres m'ont beaucoup apporté, parce que dans la formation musicale aujourd'hui, moi j'ai commencé à être sur scène il y a environ un peu moins de 10 ans maintenant, et quand on sort de nos études, on a très peu d'expérience scénique. Donc rencontrer des gens comme ça au début de sa carrière, c'est vachement enrichissant. Et j'ai beaucoup de chance, parce que Carsen, comme Varlikovski, Pelli, Olivier Py, tous ces gens-là ont un vrai travail de recherche et vont loin avec les chanteurs. Ils osent aller loin avec les chanteurs. Alors il faut y répondre aussi, c'est pas forcément évident, mais moi j'ai toujours envie d'aller là-dedans. Et j'ai beaucoup d'outils maintenant. Iphigénie avec Varlikovski, c'était une expérience incroyable, par exemple.
C'est là qu'on voit que vous êtes vieux maintenant, pardon, comme vous dites vachement.
C'est terrible.
35 ans, ça y est, on dit plus ça aujourd'hui quand on est jeune. Hein. Vous êtes passé dans la nouvelle génération. Clair. On va quand même en revenir à vos débuts. Invité avec nous de la grande table jusqu'à midi et demi, Stanislas de Barbeyrac.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Dans le cadre du festival École en Chœur, un millier d'élèves venus de différentes académies chantaient hier soir en chœur, évidemment, dans l'auditorium de Radio France, devant deux ministres et un public nombreux. Vous avez fait, vous, vos débuts, Stanislas de Barbeyrac, avec la maîtrise, le chœur des petits chanteurs de Bordeaux. Ça a été une étape importante dans votre choix, dans votre envie de faire de la chanson, du lyrique. Votre profession.
En fait, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois devenu chanteur professionnel d'opéra, mais ça a été une étape importante dans ma construction, enfant, parce que j'ai commencé, j'avais 8 ans, donc c'est très très jeune, et j'ai adoré ça, parce qu'effectivement, la maîtrise était placée dans mon école, donc c'était les copains de classe qui allaient à la maîtrise, et on partait tout le temps en vacances avec la maîtrise, faire des concerts à l'étranger, avec un orchestre, enfin bon, c'était une expérience vraiment vraiment sympa, et j'ai juste voulu recommencer le chant après ma mue, et je savais pas trop quoi faire, parce que j'aimais la musique chorale et je voulais en refaire à Bordeaux parce que je faisais mes études, et je suis tombé au conservatoire et j'ai commencé le chant lyrique par hasard, parce qu'il fallait faire des cours de chant pour pouvoir rentrer dans cette chorale. Et j'ai découvert le chant lyrique que je ne connaissais pas du tout, parce qu'évidemment, chanter de la musique sacrée dans un chœur amateur, ça n'a rien à voir avec la technique de chanteur soliste lyrique. Et voilà, ça a été une découverte totale et un grand coup de cœur. Et donc, j'ai commencé à 20 ans ce chant-là et j'ai pas arrêté.
Après ma mue, dites-vous, Stanislas de Barbeyrac. Ben oui, mais quand on est danseur, c'est le corps qui change à l'adolescence et qui dicte sa loi. Quand on est chanteur, c'est la voix. On est complètement impuissant face à cette mue qui pourrait rebattre les cartes complètement, c'est-à-dire à la fois vous ouvrir les portes d'un grand destin de chanteur, comme vous les fermez entièrement. Ou est-ce que cette voix, quel que soit ce passage de l'adolescence, vous pouvez vous la fabriquer.
C'est vrai que c'est l'inconnu total. Je me souviens très bien, on chantait en Allemagne une tournée des cantates de Bach et j'étais en répétition et puis plus rien. Il se passe rien. Alors quand vous aimez le chant, c'est compliqué, quoi. et on sait pas du tout combien de temps ça va durer, ce qui se passe et ce qui, voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on va trouver en sortant?
Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'on va trouver en sortant, quoi? Parce qu'on est habitué, son oreille, son corps, ses muscles, son cerveau est habitué à un son, à une énergie, à quelque chose quand on a une voix d'enfant. Et puis plus rien. Donc c'est terrible, c'est l'inconnu. Et quand ça revient, eh bien, on a complètement autre chose. Et donc c'est ça qui m'a guidé vers la chorale en fait après la mieux, parce que j'avais envie de connaître ma voix, chanter. Je savais pas si j'étais basse, ténor, baryton, j'en avais aucune idée. Et après, eh bien, quand j'ai commencé le chant lyrique, c'est évidemment la qualité d'un timbre ou la qualité d'une voix, on l'a ou on l'a pas. Je pense qu'il y a une part de don. Mais après c'est le travail, quoi. J'ai complètement façonné et fabriqué ma voix, surtout la voix de ténor est une voix un peu spéciale techniquement à travailler. Donc voilà, ça a pris du temps et ça me demande toujours beaucoup de temps aujourd'hui. Ça demande beaucoup de travail, de technique, de recherche de couleurs. C'est du laboratoire vraiment la voix. Donc cette muse c'était un passage compliqué, ouais.
Comme un instrument en fait. Aujourd'hui, il faut l'accorder en permanence.
Oui, voilà, oui.
Le protéger
même
aussi.
Même à 35 ans, la voix évolue, donc il faut l'écouter, quoi.
Et comment on trouve aussi son propre son? Comment on cherche et trouve peut-être la personnalité de sa voix sans tenter d'être toujours dans l'imitation de ce qu'on admire?
Oui, c'est vrai. C'est une chose difficile aussi parce que on est tenté de vouloir, on a tous des références dans l'oreille qui nous plaisent, etc. Mais je crois que, en fait, quand on est sur scène, on est tout seul. Donc on est guidé par sa propre émotion et puis finalement sort ce qui sort. Moi, je rentre jamais sur scène en me disant, tiens, je vais faire tel truc. J'ai une idée de la conduite de mon personnage et des couleurs que je veux apporter. Mais en même temps, on n'est jamais, je chanterai pas pareil demain soir à Garnier que j'ai chanté hier soir. Donc, voilà, il faut juste se laisser guider par l'émotion du moment parce qu'il y a un stress en plus ou en moins parce que on est un peu décalé, on est un peu en avance, on est un peu en retard. Bon, bref. Donc, c'est juste ça qu'il faut écouter, quoi. C'est difficile, hein.
On écoute cette voix dans un lied de Schubert avec Laurence Equilbé et Lynn Soula Orchestra, extrait d'un album que vous avez enregistré ensemble en 2017, Nacht und Träume. C'est ça, l'effet Stanislas de Barbeyrac, un sentiment intense de la voix chaleureuse et souple, une ligne élégante et naturelle, une diction impeccable au service de l'intelligence du phrasé, nous dit Lacroix. Voix souple, timbre clair et puissant, phrasé élégant, le ténor a fait merveille en chevalier de Der Ferne Klang de Franz Schrecker, monté à l'Opéra National du Rhin, nous dit Le Monde, qui parle d'un lyrisme racé de Stanislas Barbeyrac. Voilà, tout cela pour vous. Stanislas Barbeyrac, vous êtes avec nous encore quelques minutes. Vous êtes ensuite, vous avez commencé au Conservatoire de Bordeaux, vous l'évoquiez, vous avez rejoint ensuite l'atelier lyrique de l'Opéra de Paris avec une première grande scène, les Corégies d'Orange en 2011 pour Rigoletto de Verdi, chanté en extérieur, parce que c'est pas le cas en ce moment à l'Opéra Garnier, mais dans le théâtre antique d'Orange ou dans la cour de l'ancien archevêché au Festival d'Aix avec le rôle de Tamino dans la flûte enchantée de Mozart par exemple, faire avec les éléments, la chaleur, le vent, tout ça c'est une difficulté supplémentaire pour un chanteur ou c'est des sensations accrues?
C'est les deux. C'est difficile parce que les rapports acoustiques pour la voix, etc., c'est plus compliqué. À Orange, il y a une donnée aussi difficile, c'est le Mistral. Donc, en fonction de ça, il faut s'adapter et peut-être mettre un peu moins en pratique les demandes du metteur en scène pour les placements, etc. Mais voilà, on fait avec. Et puis, c'est des énergies, des sensations à chaque fois différentes. Moi, j'adore chanter à Orange et à Aix parce qu'il y a une ambiance particulière. C'est pas pareil.
Vous donc, y serez cet été?
À Orange, oui.
À Orange.
Pour Don Giovanni.
Et ben voilà, c'est vraiment l'année.
C'est pas très original.
Comme il eut avant l'année, Flûte enchantée avec ce rôle de Tamino, Tamino le vertueux, le courageux. En fait, vous avez un peu suivi le même parcours initiatique que votre personnage. Est-ce qu'il vous a fallu faire preuve de qualités similaires pour passer les épreuves et avancer? Du courage, de la vertu?
Ouais, pas faux. Il faut du courage. C'est un métier difficile. Il faut apprivoiser aussi la solitude. Moi, j'ai une femme, des enfants, tout ça. Donc, c'est compliqué parce qu'on est 10 mois de l'année pas chez soi. Donc, il y a des similitudes, c'est vrai.
Mozart, c'est quand même le répertoire que vous avez le plus chanté,
oui.
Avec Gluck peut-être aussi. Oui. Vous avez envie d'aller maintenant vers d'autres horizons?
Oui, il y a des choses qui se profilent, naturellement. Ils veulent avoir le Freischütz de Weber là à la rentrée aussi, après les Indes Galantes au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis aussi des choses à l'Opéra de Paris, dans des nouveaux répertoires, des nouvelles langues. Donc voilà, je suis un petit peu l'évolution de ma voix et...
Ça, c'est intéressant parce que vous dites, j'ai lu ça quelque part, que certains rôles restent encore inaccessibles pour vous. Ça tient à quoi?
Ça tient au fait que j'ai envie d'être honnête et raisonnable avec moi-même et que je sais que ces choses-là vont arriver, mais je ne sens pas encore pour l'instant. Parce que j'ai pas envie d'utiliser un capital et parce que j'ai envie de continuer à chanter mes rôles de Gluck et de Mozart tant que je peux les faire, parce que ça me fait du bien à la voix. Je sens qu'aussi ces rôles-là évoluent dans ma voix, donc il va falloir aussi à un moment donné un peu les mettre de côté, mais tant que je peux les faire, je vois pas pourquoi je me l'interdirais, tout en ayant un défi bien mesuré par saison ou deux pour explorer d'autres choses.
En attendant, vous vous autorisez à être une fois encore Don Ottavio, dans ce Don Giovanni de Mozart, à voir en ce moment et à écouter surtout jusqu'au 13 juillet à l'Opéra Garnier, à l'Opéra de Paris donc, avant de vous retrouver un peu partout dans le monde et notamment à Orange cet été. Merci beaucoup à vous,
Stanislas
de Barberac. Merci.